Vous écoutez « On lit pour vous ».
Mieux vaut être en santé que pauvre. Un texte de Francis Vaille paru le 16 avril 2026 dans la presse. Si vous êtes un fumeur obèse et pauvre, vous avez de fortes chances d'être un très grand utilisateur des services de santé. L'information n'est pas nécessairement surprenante, mais une étude québécoise permet maintenant de préciser le lien entre les patients et les facteurs sociodémographiques, comme le niveau de revenu ou le statut matrimonial. Effet nouveau, l'étude s'étend sur 10 ans et permet donc de distinguer les grands utilisateurs occasionnels des services de santé de ceux qui sont persistants. Pourquoi est-ce d'intérêt pour une chronique économique? Parce que, selon la littérature, environ 5 % des patients représentent 50 % des dépenses de santé. Sachant que les dépenses de santé représentent 13 % du PIB et que les besoins croissent plus vite que les budgets publics, le portrait des 5 % de grands utilisateurs est essentiel. En 2012, année centrale de l'étude, chaque grand utilisateur a coûté 16 840 $ de services de santé, en moyenne, contre 985 $ pour les autres utilisateurs, constate l'étude. La recherche a été réalisée par une équipe de 5 chercheurs de l'Université Laval, dont font partie Maud Laberge et Bill Yacouba-Jedoux. L'étude porte sur 19 956 personnes au Québec et analyse leur trajectoire de soins entre 2007 et 2016. Les chercheurs ont croisé les réponses de chacun de ces patients à un questionnaire de Statistique Canada avec leurs données d'utilisation à la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ. Alors, quelle est la probabilité qu'un célibataire soit davantage abonné aux services de santé qu'une personne mariée, ou qu'un homme le soit par rapport à une femme? Avant de répondre, il faut d'abord élaguer les premiers résultats de l'étude. Le premier constat, c'est que les grands utilisateurs ne le sont souvent qu'une seule fois sur une période de 10 ans, ce que les études sur une seule année ne pouvaient bien vérifier. Dans ces cas, le recours important aux services de santé peut s'expliquer par un accident, une opération ou un événement de santé particulier. Plus précisément, 62 % des grands utilisateurs ne l'ont été qu'une seule fois durant la période de 10 ans analysée et 32 % deux fois. Les autres, 3 fois ou plus sur 10 ans, représentent quelque 6 % des 19 956 patients de l'échantillon, ce qui demeure considérable. Seuls 0,1 % des patients de l'étude, 20 patients, se sont révélés être de grands utilisateurs à chacune des 10 années de l'étude. En suivant le groupe dans le temps, les chercheurs ont constaté que le coût moyen d'un même grand utilisateur n'est plus de 16 840 $, mais descend plutôt aux environs de 5 000 $ par année, en moyenne. La facture demeure tout de même 5 fois plus élevée que celle de quelques 1 000 $ des faibles utilisateurs. Les hommes davantage que les femmes. Cela dit, qu'est-ce qui caractérise les très grands utilisateurs des autres, mis à part l'âge, qui ressort, sans surprise, comme le facteur le plus déterminant? Premier élément, ce sont les hommes qui se retrouvent en plus grand nombre parmi les grands utilisateurs persistants. Par exemple, la probabilité d'être un grand utilisateur pendant 10 ans d'affilée est 50 % plus élevée si on est un homme que si on est une femme. Autre élément, les personnes mariées ou en union libre ont 30 % moins de risque de se retrouver parmi les utilisateurs persistants que les célibataires. Les personnes vivant seules ont souvent moins de soutien social, ce qui peut conduire à un plus grand recours aux soins hospitaliers, est-il expliqué dans l'étude. La chercheuse Maud Laberge, professeure au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, me donne d'autres exemples qui ressortent clairement de la recherche. Par exemple, les fumeurs quotidiens ont 40 % plus de risques que les non-fumeurs d'être des utilisateurs persistants. Pour les personnes obèses, indice de masse corporelle de plus de 30, cette probabilité plus grande grimpe à 59 % par rapport aux personnes à l'IMC normal, entre 18 et 25. Et qu'en est-il des pauvres? Selon l'étude, les personnes qui gagnent 80 000 $ ou plus ont 60 % moins de probabilité de figurer parmi les utilisateurs persistants que celles qui font moins de 20 000 $. Attention, m'explique la chercheuse Maud Laberge, ces statistiques établissent des liens de corrélation, pas de causalité. On peut être pauvre parce qu'on est malade ou malade parce qu'on est pauvre, ou un peu des deux. L'étude ne mesure pas la cause, seulement le lien. Cela dit, les chercheurs n'ont trouvé aucun lien de corrélation significatif entre les grands utilisateurs et le statut de résidence, natif du Canada ou immigrant, la région, milieu rural ou urbain, ou le niveau d'éducation. Elle n'a pas, par ailleurs, mesuré l'incidence de l'activité physique sur l'utilisation des services de santé. À la lumière de l'étude et des recherches sur le sujet, Maud Laberge juge qu'il faut s'affairer à mieux suivre les utilisateurs persistants pour les aider à sortir de cette persistance. C'est là que se trouvent les plus gros gains possibles pour le système de santé. Il faut trouver des solutions, me dit Mme Laberge. Comme disait l'humoriste Yvon Deschamps, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Il ne croyait pas si bien dire, et dans le système essentiellement gratuit qu'est le nôtre, le gouvernement aurait intérêt à faire de la prévention pour minimiser le nombre de personnes qui se retrouvent dans le second groupe. C'était « Mieux vaut être en santé que pauvre », un texte de Francis Vaille paru le 16 avril 2026 dans la presse.
Trois tendances numériques inquiétantes. Un texte d'Alain McKenna, paru le 29 avril 2026 dans La Presse. Une lectrice, Renée Gagnon, demande : Nous avons reçu dernièrement un produit pour les cheveux avec une fausse adresse de retour. Aucun document, uniquement un produit emballé. Une recherche indique que ça pourrait être du brushing. Que faire? Ça a toutes les apparences d'une arnaque, connue sous le nom de brushing, en effet. Rassurez-vous, votre portefeuille n'est pas en danger. Les vendeurs de certaines grandes plateformes de commerce en ligne utilisent cette technique pour mousser artificiellement leur popularité. Ils créent un faux profil avec votre adresse postale, achètent leurs propres produits de faible valeur et paient la facture à votre place. Une fois le colis livré chez vous, le système leur donne la permission de publier une critique élogieuse avec la mention très convoitée d'un achat vérifié. Vous devenez alors le complice involontaire de leur fraude publicitaire. La réception de ce paquet mystère confirme qu'un inconnu possède votre nom et votre adresse. Ces données de base circulent souvent librement sur l'Internet. Par précaution, vérifiez tout de même l'historique de vos commandes sur vos comptes habituels. Si vous voyez une transaction suspecte, modifiez votre mot de passe sans délai. Que faire avec ce fameux produit capillaire? C'est assez simple. Vous n'avez aucune obligation de le retourner ou de le payer. Gardez-le, offrez-le en cadeau ou jetez-le aux poubelles. L'affaire est close. Un lecteur, Benoît Simard, demande : Le système iOS sur mon iPhone occupe près du quart du stockage. Je passe mon temps à effacer des souvenirs pour faire de la place. C'est choquant. Existe-t-il une façon de diminuer l'espace occupé par l'iOS? Malheureusement, vous ne pouvez pas amputer le système d'exploitation d'Apple. iOS est un moteur complexe qui a besoin d'espace pour respirer. Par contre, le coupable se cache peut-être sous l'appellation « données » au pluriel « système ». Cette section agit comme un grenier virtuel. Elle accumule les fichiers temporaires et les restes de mise à jour. Avec le temps, elle peut devenir gigantesque. Pour forcer un grand ménage automatique, exécutez d'abord une manœuvre toute simple. Éteignez complètement votre téléphone, patientez une minute, puis rallumez-le. Le système efface, lors du redémarrage, plusieurs éléments inutiles. Si l'encombrement persiste, la méthode draconienne est une réinitialisation. Créez une sauvegarde complète sur un ordinateur ou avec iCloud, puis effacez le contenu de l'appareil par un retour aux paramètres d'usine. Restaurez enfin votre copie de sécurité. Le téléphone rapatriera vos informations cruciales, mais laissera les déchets numériques derrière lui. Cessez de supprimer vos précieuses photos. Confiez-les plutôt à un service de stockage en nuage pour libérer la mémoire physique de votre appareil sans rien perdre. Un lecteur, Alain Marcoux, demande « J'ai reçu un appareil Alexa en cadeau. On m'a dit qu'il pouvait écouter mes conversations. Est-ce possible ou s'agit-il d'une légende urbaine? » La réponse se situe à mi-chemin entre le mythe et la réalité. Non, Amazon ne paie pas des espions pour analyser vos conversations. Votre appareil est toutefois conçu avec un microphone perpétuellement ouvert. L'enceinte connectée reste dans un état de veille. Elle guette le mot magique « Alexa ». Le système analyse les bruits locaux et détruit l'information sur le champ. La transmission vers les serveurs débute uniquement après la prononciation de ce signal. Évidemment, la prudence reste de mise. Vous pouvez couper le microphone avec le bouton sur le boîtier. De plus, ouvrez l'application mobile pour interdire l'utilisation de vos enregistrements. L'appareil restera alors un simple outil pratique au lieu d'un invité trop curieux. Si vous avez parfois l'impression que votre enceinte ou même votre téléphone espionne vos conversations, tant les publicités affichées sur les réseaux sociaux sont idoines, sachez que c'est plutôt la quantité de données numériques récoltées par les pisteurs publicitaires des géants du numérique qu'il faut montrer du doigt. C'était trois tendances numériques inquiétantes. Un texte d'Alain McKenna, paru le 29 avril 2026 dans La Presse.
Un guide pour convaincre les femmes de voyager seules. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 12 avril 2026 dans La Presse. Vous n'osez pas voyager seule? Sandra Serrois va vous convaincre de partir à l'aventure. Dans « Ose le voyage en solo », la créatrice de contenu et grande voyageuse nous raconte ses nombreuses péripéties et donne des conseils pour réussir votre voyage en solo. Pourquoi beaucoup de femmes craignent-elles de voyager seules, selon vous? Il y a trois grandes peurs. D'abord, on craint pour sa sécurité, ce qui est normal. On est plus vulnérable que les hommes et, à l'étranger, s'il nous arrive quelque chose, on sera plus inquiète. Il y a aussi la peur du jugement, car une femme qui voyage seule, même dans un tout-inclus dans le Sud, sera peut-être jugée, mais il faut s'en moquer. Il y a aussi la peur de se sentir seule. Ça dépend du tempérament de chacune, mais on doit être capable de surpasser ce sentiment. Il ne faut pas se priver. Si votre rêve est de voyager, mais que vos amis ne sont pas disponibles pour le faire, n'ayez pas peur. Il existe toutes sortes de façons de voyager seul, comme participer à des voyages organisés par des agences de voyage. On en trouve pour tous les goûts, pour hommes et femmes, pour femmes seulement, pour les sportifs, les plus jeunes, les plus âgés. J'en ai fait un en Nouvelle-Zélande. Le thème était plus sportif. On a fait du vélo, de la randonnée, du kayak, et j'en garde un très bon souvenir. Quels sont les bienfaits de voyager seul? Il faut oser sauter dans l'inconnu, accepter de ne pas tout contrôler, se laisser surprendre par soi-même et par la vie. C'est dans des moments d'incertitude, dans un pays étranger, quand on ne parle pas la langue, qu'on se perd, qu'on découvre qui on est vraiment. À 21 ans, je n'avais jamais voyagé. J'ai participé à un échange étudiant à l'université en Belgique. Je suis passé par Paris, dont je rêvais, et ça a été une révélation. Cette première fois à l'étranger, seul, sans repère, sortant de ma zone de confort, c'était merveilleux. Je marchais seul le soir sur les Champs-Élysées et je savais que ma vie allait changer. Ce court séjour à Paris a été un vrai choc et a complètement changé ma vie. On ressent de la fierté au retour d'un voyage après avoir vécu tant d'aventures et ça donne confiance en soi, car on sait de quoi on est capable. Quels sont les pays où vous conseillez de voyager seul et les pays où c'est moins agréable? Là où c'est facile, en Asie. Le Japon est mon coup de cœur. C'est magnifique. Les gens sont tellement gentils. On y mange très bien. C'est dépaysant et tellement sécuritaire. Je recommande aussi la Corée du Sud, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande. Ailleurs, dans le monde, je suggère l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays d'Europe. Il y a évidemment le Canada, l'Ouest canadien, notamment en Colombie-Britannique et en Alberta. Dans les pays les plus difficiles, comme en Égypte, on recommande d'avoir un guide officiel avec soi en tout temps, pour tous les voyageurs. Pour un premier voyage en solo, je ne le recommande pas. Je suis allé en Égypte toute seule en 2022, juste après la pandémie, et je me suis dit que je n'avais plus de temps à perdre pour réaliser mes rêves. Je suis donc allé voir les pyramides d'Égypte, puis j'ai fait un safari au Kenya, et je suis allé en Croatie. Quelles leçons tirez-vous de vos voyages? Ne jamais donner son passeport à personne, ça va de soi, mais on peut vous le demander pour une raison ou pour une autre. Alors attention à toujours le garder avec soi. Prendre une assurance voyage, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Faites attention aux rencontres. Il faut suivre son instinct, car si vous rencontrez quelqu'un, mais que vous ne vous sentez pas en confiance, ni en sécurité, n'y allez pas. Soyez ferme et exprimez-vous clairement. Si vous le pouvez, voyagez en basse saison. Tout est moins cher. Les vols, l'hébergement, il y a moins de monde et ce sera plus agréable. Et ne vous en faites pas pour la météo, en basse saison. Je suis allé à Hawaï en pleine saison cette année et il y a eu la pire tempête en 40 ans. J'habite à Vancouver et cet hiver, on a eu un temps merveilleux, ensoleillé, alors que d'habitude, il pleut tout le temps. On ne contrôle pas la météo. C'était « Un guide pour convaincre les femmes de voyager seules », un texte d'Olivia Lévy, paru le 12 avril 2026 dans la presse.
Péage sur les routes. L'opposition n'est pas contre, mais à certaines conditions. Un texte de Patrice Bergeron, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n'est pas contre le principe d'utilisateur-payeur. Mais il veut revoir la colonne des dépenses de l'État avant de puiser dans la poche des contribuables. L'opposition n'est pas fermée à l'installation de postes de péage sur les routes du Québec, comme l'envisage le gouvernement caquiste. Mais le Parti libéral, PLQ, et le Parti conservateur du Québec, PCQ, d'Éric Duhaime, ajoutent des conditions avant d'en arriver là. Le gouvernement Fréchette est en réflexion actuellement sur la mise en place de péages pour combler en partie le déficit accumulé d'entretien des routes, qui s'élèverait à plus de 24 milliards de dollars. « On n'est pas contre le principe de l'utilisateur-payeur », a affirmé M. Duhaime en point de presse jeudi matin à l'Assemblée nationale. « Je pense qu'il faut regarder les dépenses avant de regarder d'autres sources de revenus », a ajouté sa députée Maïté Blanchette-Vézina à ses côtés. Ça coûte plus cher de faire des travaux au Québec. Ça fait qu'il y a des actions à poser sur les dépenses avant de penser à des nouvelles sources de revenus. PLQ. Pour sa part, le chef libéral, Charles Milliard, a aussi soutenu jeudi matin qu'il faut réfléchir à la solution du péage. Pour les nouveaux projets, il faut être ouvert à ça, a-t-il suggéré, en rappelant les pressions sur les finances publiques et les contraintes que cela impose. Collectivement, on ne fera pas de magie financière au Québec. Aucun parti ne pourra faire de la magie financière. M. Milliard a ajouté que si des péages sont imposés, il faudra toutefois qu'il existe des solutions de rechange pour les usagers de la route, d'autres tronçons gratuits. Lundi, à sa première conférence de presse à titre de nouvelle chef du gouvernement, Christine Fréchette avait dit que la mise en place de péages était à évaluer. « Je ne ferme pas la porte d'emblée. Est-ce qu'il y aura des péages à la grandeur du Québec? Non. Mais c'est une formule peut-être qu'il faudra considérer. Je vais voir les propositions. » Mercredi, le ministre des Transports, Jonathan Julien, avait renchéri en disant que le péage est la bonne avenue pour combler le déficit d'entretien des routes au Québec. Il avait rappelé que le gouvernement peinait à entretenir les 30 000 kilomètres de routes dont il a la responsabilité. Selon les données officielles du gouvernement du Québec, 56 % des routes sont jugées en bon état, 13 % sont jugées en mauvais état et 31 % en très mauvais état. Le Plan québécois des infrastructures, PQI, 2026-2036, prévoit un montant de 35,7 milliards de dollars pour le réseau routier, réparti de la façon suivante. 88 % 31,6 milliards de dollars en maintien d'actifs, donc entretien et réparation, et 12 % 4,1 milliards de dollars en bonification, c'est-à-dire l'ajout d'infrastructures. Le déficit de maintien d'actifs a beaucoup augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec en 2018. C'était Péage sur les routes. L'opposition n'est pas contre, mais à certaines conditions. Un texte de Patrice Bergeron, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info.
On arrête Ozempic ou Wegovy, les kilos reviennent en moins de 2 ans. Un texte paru le 28 avril 2026 dans Courrier international. Les bénéfices des traitements anti-obésité forment une liste très longue, mais ils passent dès que les patients arrêtent les traitements, résume le site spécialisé en actualité médicale Stat News. En compilant les résultats de 37 études, portant au total sur quelque 9 300 personnes, une vaste analyse, paru début janvier dans British Medical Journal, montre que les gens reprennent du poids 4 fois plus rapidement que s'ils avaient fait un régime traditionnel et de l'activité physique. Mais aussi que l'amélioration des indicateurs cardiovasculaires, comme la tension artérielle ou le taux de cholestérol, finit aussi par se dissiper. L'arrivée des médicaments analogues du GLP-1 pour glucagon-like peptide 1, une hormone que sécrète le corps humain et qui régule le taux de glucose sanguin et l'appétit, a constitué un tournant dans le domaine de l'obésité. Car d'abord prescrite pour les patients ayant un diabète de type 2, les molécules telles que le sémaclutide pour l'Ozempic et le Wegovy, les médicaments les plus connus, et le tirzepatide pour le Mounjaro, se sont rapidement avérés extrêmement efficaces dans la perte de poids. Sauf qu'à cause des effets secondaires, notamment gastro-intestinaux, de ces traitements, ainsi que de leurs coûts, plus de la moitié des gens finissent par interrompre leur traitement au bout d'un an. Mode de vie. Les auteurs s'attendaient que les gens regagnent le poids perdu, mais ils ont été surpris de la vitesse à laquelle cela s'est produit, rapporte Stat. Car ceux qui arrêtent leur traitement retrouvent leur poids initial en 18 mois en moyenne. Quant aux indicateurs cardiovasculaires, ils retrouvent leur niveau d'origine d'avant-traitement en même pas 18 mois. Cité par Stat, Adam Collins, spécialiste en nutrition à l'Université de Surrey au Royaume-Uni, qui n'a pas participé à ce travail, considère qu'on retiendra de cet article que les traitements anti-obésité ont rendu la perte de poids très facile, mais que maintenir cette perte de poids est un défi encore plus important. Selon lui, le fait de délivrer des analogues du GLP-1 à des niveaux bien supérieurs à celui de l'hormone GLP-1 pourrait rendre les personnes moins sensibles à ses effets à des concentrations physiologiques, ce qui augmenterait encore l'appétit de ceux qui arrêtent les traitements. Ceux qui font des régimes et du sport finissent, eux, par adopter un mode de vie qui limite la reprise du poids. C'était « Quand on arrête Ozempic ou Wegovy, les kilos reviennent en moins de 2 ans. » Un texte paru le 28 avril 2026 dans Courrier international.